16h-18h sur Europe 1.
Stéphane Bern et Mathieu Noël.
Historiquement vôtre.
Bonjour à tous, oui, vous êtes sur Europe 1 et oui, c'est un nouveau numéro d'Historiquement Vôtre qui démarre. Alors très certainement, à l'instar de mon joyeux acolyte, vous avez envie de crier très fort.
Oh yeah.
Bonjour Stéphane Bern, oh yeah à vous.
Bonjour Mathieu, bonjour à tous. Oui, la perspective de passer 2 heures en compagnie d'un garçon aussi érudit que vous m'enchante. Et vous cachez bien votre jeu, hein. Parce que franchement, dans la vie, quand on vous voit comme ça, avec vos esprits à capuche, on n'imaginerait pas que vous ayez fait des études. Vous êtes comme nos personnages du jour.
Ils ont fait des études aussi ?
Non, ils cachent bien leur jeu. À commencer par celui qui a laissé à jamais son nom dans l'histoire grâce à un exploit, le pilote Charles Lindbergh, qui a traversé l'Atlantique dans son monoplan. Mais derrière ce succès se cache une vie sentimentale surprenante et des idées carrément indéfendables. Puis en France, et plus loin dans le temps, je vous raconte celle qui a bien caché son jeu à la cour du roi Louis XIV, qu'elle a fini par mettre dans son lit, et dont elle a largement occupé l'esprit pendant plus de 10 ans aux grandes dames de son mari. C'est Madame de Montespan. Quant à vous Mathieu, vous nous brosserez le portrait à 99% vrai de quelqu'un qui a bien caché son jeu, hein, et plus récemment.
Oui Stéphane, il a récemment fait l'objet d'un documentaire choc sur Netflix, il s'appelle Shimon Hayut. Sur Tinder, il a pas mal de matchs et pour cause, il est milliardaire, il a des montres, des jets, des voitures de sport. Sauf qu'en réalité, il n'a rien de tout ça. C'est un arnaqueur professionnel. C'est son incroyable histoire que je vous raconte aujourd'hui. Elle aussi, on découvrira peut-être un jour qu'elle cachait bien son jeu. Elle nous surprendra, qui sait ?
En devenant agent double pour l'Allemagne nazie.
Peut-être, Stéphane, mais pour l'instant, tout est possible. Mais pour l'instant, elle nous invite chaque après-midi dans l'intimité de l'histoire. C'est Clémentine Portier-Kaltenbach. Bonjour Clémentine.
Bonjour Mathieu, bonjour à tous. Mais non, moi je suis claire comme de l'eau de roche. Je n'ai absolument rien à cacher. En revanche, ceux dont je vais vous parler, eux, cachaient bien leur jeu. Ils se sont tellement bien cachés. Ils sont partis vivre au fin fond de la Sibérie pendant 40 ans. Ils sont partis dans les années 30. Et quand on les a retrouvés, 40 ans plus tard, ils ignoraient tout du reste du monde. Ils ne savaient pas qu'il y avait eu la Seconde Guerre mondiale. Ils ignoraient que l'homme était allé sur la Lune. Il n'en savait rien. C'est la famille Likov et je vous raconterai son histoire étonnante.
En autarcie, en Sibérie. Ouais.
Et puis avec nous, David Castel-Lopez qui remonte aux origines de ce qui fait notre quotidien.
Oui, pas vraiment notre quotidien, mais quelquefois des loisirs, la réalité virtuelle.
Ah oui.
Où elle prend ses racines et où va-t-elle ?
Elle
nous a beaucoup déçus.
Mais il y a plein de promesses quand même. Est-ce que vous allez entraîner Stéphane dans le métavers ?
Je vais voir ce que je peux faire de ce
côté-là. Vous savez Stéphane qu'il faut investir dans le métavers, dans l'immobilier virtuel dans le métavers.
Ouais.
Vous n'avez pas investi, j'ai l'impression.
Non, pas du tout, ni dans les NFT, voyez-vous.
Non, vous êtes complètement pas à la
page. Non, mais j'ai pas de Bitcoin non plus.
Non plus ?
J'ai rien de tout ça.
Vous allez finir sur la paille, Stéphane.
Je sais, mais j'assume... J'appartiens au vieux monde qui disparaîtra.
Avec des vraies maisons.
Empire de taille. Olivier Pouls est avec nous également, Stéphane.
Oui, pour une recette, on remonte aux origines d'une recette, d'un plat, d'un mets, de quelque chose qui est de saison.
Quelque chose tout à fait de saison, aux airs un peu provençaux quand même, les artichauts à la barigoule. D'où est-ce que cela vient ? Pourquoi ce nom ?
De la barigoule.
Oui, mais qu'est-ce que c'était que les barigoules ?
En tout cas, c'est plus appétissant que votre anguille au vert. Là. Franchement, là, aujourd'hui, on a envie de faire cette
parce
recette.
Parce que vous revenez en terre inconnue, mais il faut encore aller explorer les travers de la gastronomie un peu non bornée, comme vous la connaissez.
Vous serez bien, vous, dans le métavers gastronomique ?
J'ouvrirai un restaurant métavérien.
Le premier restaurant métavérien avec Olivier Pouls, c'est une idée. On jouera aussi dans cette émission, comme d'habitude, à Bern to be Alive, le quiz qui permet de départager chaque jour, souvent sur des questions concernant le Japon antique. Stéphane de Clémentine, nous verrons ça, mais tout de suite, découvrons notre premier personnage du jour.
Europe 1.
16h-18h.
Historiquement vôtre. Stéphane Bern et Mathieu Noël.
Le récit.
Derrière le héros d'une nation tout entière se cache un homme à la vie personnelle peu conventionnelle.
Je crois que c'était Catherine Ney plutôt.
Non Stéphane, on embrasse Catherine. C'est un homme dont on parle. Un pilote, un père de famille meurtri, un mari, un don Juan, mais pas seulement. Stéphane Bern attache sa ceinture et nous raconte Charles Lindbergh.
Nous sommes le 20 mai 1927 à New York. Peu avant 8h ce matin-là, Charles Lindbergh s'apprête à accomplir l'impossible. Traverser l'Atlantique et rallier Paris sans escale à bord de son petit avion monoplan, le Spirit of St. Louis. Le défi se joue en solitaire, avec lui simplement quelques sandwichs, 5 litres d'eau et un peu de café. Il n'a pas de radio pour communiquer, pas de parachute non plus, mais un radeau de sauvetage en caoutchouc si l'appareil venait à défaillir au-dessus de la mer. et il ne peut voir devant lui qu'à l'aide d'un périscope car sa vue est bouchée par les réservoirs d'essence supplémentaires. Suivant rigoureusement les caps prévus, le pilote alterne ses réservoirs. Il trouve la Grande-Bretagne, puis la France, et vole vers Paris en cherchant l'aérodrome du Bourget. Enfin, le 21 mai, à 22h22, les roues du Spirit of St. Louis touchent le sol français. Charles Lindbergh coupe le contact et, selon la légende, descend avec ces mots « Well, I did it ». Eh bien, je l'ai fait. L'avion est immédiatement entouré d'une foule en folie. 150 000 personnes se jettent sur le monoplan et l'on a du mal à arracher l'aviateur à ses admirateurs déchaînés. L'homme qui a vaincu l'Atlantique devient d'autant plus célèbre qu'il a le physique de l'emploi. Beau, blond, une carrure de dieu viking, Charles Lindbergh a aussi ce mental d'acier dont sont faits les héros. Pourtant, derrière la façade, se cachent quelques secrets peu reluisants. Charles Lindbergh est né le 4 février 1902 à Détroit, dans le Michigan. Sa mère, professeure de sciences, est une femme réservée et peu affectueuse. Quant à son père, membre du Congrès américain, il compense ses nombreuses absences par des faveurs exubérantes. Il invite son fils à visiter la Maison Blanche et l'emmène à Fort Myer en Virginie pour assister à son premier vol. Peu attiré par les études, Charles s'inscrit à l'école d'artillerie de Camp Knox, dans le Kentucky, où il suit des cours de pilotage qui lui permettent de devenir pilote de l'US Air Mail. En ce début du XXe siècle, la mode est aux exploits aériens. Louis Blériot a traversé la Manche, Roland Garros la Méditerranée. Aux États-Unis, Raymond Ortega, un riche homme d'affaires, offre une récompense de 25 000 dollars au premier aviateur qui traversera l'Atlantique sans escale entre New York et Paris. Et ce 20 mai 1927, à 25 ans seulement, Charles Lindbergh relève le défi avec succès. En 33 heures et 30 minutes, s'ensuit avec celui que l'on surnomme l'aigle solitaire une tournée triomphale aux États-Unis et en Amérique centrale. À Mexico, Lindbergh fait la rencontre d'Anne Murrow, la fille de l'ambassadeur des États-Unis. Elle a tout pour plaire au pilote qui recherche avant tout une catholique de bonne famille, disposée à mettre au monde de nombreux enfants. On ne fait pas plus romantique.
Oh oui.
Qu'importe, elle a dit oui. Après leur mariage, le couple vit isolé à East Amwell, dans le New Jersey. Pour un peu, la presse qui suit Lindbergh de près depuis son exploit les oublierait. Cela ne va pas durer longtemps. Le soir du 1er mars 1932, leur fils Charles Junior, âgé de 20 mois, est enlevé dans sa chambre. Le ravisseur s'est introduit par la fenêtre au moyen d'une échelle. Des demandes de rançon sont envoyées. 50 000, puis 70 000 dollars, et une transaction est arrangée. Pourtant, le corps sans vie du bébé est découvert dans un fossé, non loin de chez ses parents. Après 2 années d'enquête, la police accuse un ancien criminel allemand, un certain Bruno Hauptmann, qui ne cessera de clamer son innocence avant d'être tout de même condamné à la chaise électrique en 1936, après un procès largement médiatisé. Pour fuir cette pression, les Lindbergh quittent les États-Unis pour l'Europe. À la demande du gouvernement américain, ils se rendent à Berlin, où Lindbergh est vite fasciné par Hitler. Si bien que de retour aux États-Unis, Charles se fait le chantre des idées nazies, fustigeant les Juifs et incitant l'Amérique à ne pas intervenir au début de la Seconde Guerre mondiale. L'attaque de Pearl Harbor le fait changer d'avis et il redore son blason en participant à des missions aériennes dans le Pacifique. Au fil des années, les époux Lindbergh s'éloignent l'un de l'autre. Charles est un père inconséquent, capable d'oublier la remise de prix de son fils Scott ou de négliger le mariage de sa fille Land. Il est constamment en voyage, pour ses affaires certes, mais aussi car l'aviateur mène une double vie, que dis-je, une quadruple vie, puisqu'il a 3 maîtresses, toutes allemandes, auxquelles il fera en tout 7 enfants. La première s'appelle Valeska. Elle est l'interprète de Charles Lindbergh lorsqu'il est dépêché en 1957 à Munich par le président Dwight Eisenhower pour évaluer les besoins des ressortissants américains installés en Allemagne. Valeska lui présente 2 amies, des sœurs qui plus est. Brigitte est modiste et Marietta étudiante en art. Charles Lindbergh ajoute les 2 sœurs à son harem. Le voilà en voyage à Berlin avec Marietta, dans le Tyrol avec Valeska ou à Brindisi avec... qui est une petite ville d'Italie,
non, oui.
Avec Brigitte. Il leur arrive aussi de voyager tous ensemble. Lors d'un séjour à Rome, il loge ses maîtresses dans le même appartement. Pour la petite histoire, c'est à Brigitte qu'il accorde le plus de temps et d'attention, lui offrant une montre griffée ou lui passant de nombreux coups de téléphone. Apprenant la future naissance de leur premier enfant, Dirk, il lui écrit « La nouvelle que tu m'envoies est formidable et elle me fait terriblement plaisir. Je regrette simplement de ne pas être avec toi plutôt que d'écrire cette lettre. » En 1960, lorsqu'il fait la connaissance de ce bébé, Charles Lindbergh, traumatisé par l'enlèvement et la mort de son premier enfant, se livre à un bien étrange rituel. Il badigeonne d'encre les mains et les pieds du bébé et applique ses empreintes sur une feuille de papier en demandant à Brigitte de conserver ce précieux document que lui-même n'avait pas le jour de l'identification de Charles Jr. en 1932. Charles Lindbergh est promoteur pour la grande compagnie aérienne Pan American, conférencier, et il joue aussi un rôle de premier ordre dans deux ONG environnementales, WWF et l'UICN. Pour jongler, si j'ose dire, entre ses impératifs professionnels et ses quatre familles, il tient son agenda avec soin. Charles Lindbergh a toujours une voiture à sa disposition dans un garage de Waldorf, à mi-chemin entre les aéroports de Francfort et de Stuttgart, une coccinelle bleu ciel avec laquelle l'infatigable voyageur aurait parcouru plus de 200 000 kilomètres. Les maîtresses de Charles Lindbergh savent bien qu'il est marié et qu'il a officiellement 5 enfants, mais son épouse Anne, bien qu'il se soit éloigné, n'est au courant de rien. Charles Lindbergh est discret, signant ses missives d'un C prudent pour n'éveiller aucun soupçon. Ses enfants cachés le connaissent d'ailleurs sous le faux nom de Ken Careux. Ils voient leur père quelques fois par an, tout au plus, à cause de son travail, leur dit-il. Charles Lindbergh aurait prétendu être un écologiste et un auteur, ce qui n'est pas tout à fait faux, puisqu'en 1954, il a reçu le prix Pulitzer pour son livre « The Spirit of St. Louis », racontant sa traversée de l'Atlantique. À ses trois maîtresses, il assure un confort financier en leur achetant à chacune une maison. Lorsque naissent ses deux derniers enfants, David et Christophe, Lindbergh a 65 ans. Son épouse Anne se considère veuve, elle utilise elle-même ce terme, et Charles espace de plus en plus ses voyages en Europe. Il s'installe à Hawaï où il meurt en 1974 d'un cancer sans que sa double vie ne soit révélée. C'est à la mort de Brigitte que trois des enfants cachés de Charles Lindbergh sortent de l'anonymat lors d'une conférence de presse à Munich. Comme preuve, ils ont une pile de lettres d'amour que l'aviateur avait envoyées à leur mère. Des tests ADN confirmeront leur filiation avec le célèbre aviateur. Le mot de la fin, c'est sa fille légitime, Reeve, qui l'écrira dans son autobiographie. « J'ignore pourquoi il s'est comporté de la sorte, mais ma seule certitude, c'est que toute sa vie a été commandée par le secret. »
Europe 1,
historiquement vôtre.
Et pour tâcher de le percer, ce secret, justement, nous avons le plaisir, Stéphane, d'accueillir celui qui consacre un livre à Charles Lindbergh. Bonjour, Benoît Emmermann.
Bonjour.
Bonjour, Benoît Emmermann. Vous êtes écrivain, vous venez de faire paraître un ouvrage sur Charles Lindbergh, ou plutôt, devrais-je dire, une enquête. Le mystère Lindbergh chez Stock. Vous vous êtes en effet rapidement rendu compte que derrière ce héros de l'aviation se cachait, pour reprendre vos mots, une réalité plus complexe et une réputation douteuse. Vous aviez envie, j'imagine, d'aller plus loin sur certains aspects méconnus de sa personnalité.
Oui, quand je travaille sur un personnage, j'ai pour habitude de prendre le postulat de départ qu'il n'y a pas de héros, il n'y a que des hommes. Quoi. Il n'y a pas de statut indéboulonnable. Il y a toujours, si on gratte, il se passe quelque chose derrière. Donc j'ai envie de faire les arrière-cuisines, ce n'est pas la question, mais... Souvent, une faille, une erreur, un moment de la vie détermine le reste d'un destin. Récemment, j'entendais le fait que Jules Verne et Hergé n'aimaient pas les enfants, alors qu'ils sont lus par un grand nombre d'enfants. Hergé a rejeté le fils qu'il avait adopté, et Jules Verne a fait enfermer le sien parce qu'il le dérangeait dans son travail. Donc je pense que ce type de fêlures, de failles, d'erreurs, dit beaucoup du personnage. Et dans le cas de Lindbergh, oui, j'avais envie d'aller un peu au-delà du personnage un peu monolithique que l'on présente.
Alors, Lindbergh, il est un peu loin de nous, puisque son exploit a lieu il y a plus d'un siècle, mais il y a presque un siècle. Mais à l'époque, il est plus connu que Chaplin, il faut le rappeler. Il devient une véritable légende, selon vos propres termes. C'est pour ça qu'il fascine encore aujourd'hui.
C'est absolument incroyable la popularité qu'il avait. Aujourd'hui, évidemment, il y a des stars cathodiques instantanées, mondiales. Mais à l'époque, lui, se déplaçait pour rencontrer le peuple américain. Il est allé dans 48 capitales des États-Unis, capitales des États. Et là, il a rencontré tellement de monde qu'on a chiffré qu'un Américain sur 4 avait vu, même de loin, Lindbergh. Donc c'est un chiffre. Plus de 50 millions de personnes ont vu Lindbergh pendant l'année 28. Donc sa photo est partout, il a reçu 1500 cadeaux en l'espace de 10 jours à une adresse improbable, Charles Lindbergh, États-Unis, point.
Ah oui, c'est...
donc oui, c'est quelqu'un d'extrêmement connu et qui restera populaire très longtemps.
Replaçons les choses dans leur contexte. Quand Charles Lindbergh effectue son vol, il n'est en réalité pas le premier à le faire. Mais il réalise l'exploit de faire ce vol en solitaire et il rallie en fait deux villes mythiques que sont New York et Paris. Comment est-ce qu'il s'est préparé à ce vol ?
On peut dire méticuleusement, c'est le moins qu'on puisse dire. Oui, vous soulignez le fait qu'il rallie ces deux capitales, c'est extrêmement important. Parce que c'est le Nouveau Monde qui apporte à l'Ancien Monde le fait, dans ces années de bonheur, de ces années d'optimisme, le fait que l'aviation peut être l'avenir de l'humanité. Et c'est extrêmement important. Effectivement, avant lui, 40 pilotes ont essayé de traverser l'Atlantique. Aucun n'y est parvenu. 21 sont morts. Donc c'était quelque chose d'assez incroyable. D'autres y étaient parvenus précédemment, mais n'avaient pas rallié ces deux fameuses villes, avaient fait des escales par les Açores ou par Terre-Neuve. Lui, c'est quelque chose de propre, de net. Il arrive à Paris, il tourne même autour de la Tour Eiffel avant d'aller au Bourget. Mais surtout, il est seul dans son avion. C'est ça qui est remarquable. Un avion moderne, monoplan. Donc ça, c'est quelque chose de tout à fait nouveau pour l'histoire de l'aviation.
Vous-même, vous avez vu de près le Spirit of St. Louis, le fameux monoplan que pilotait Charles Lindbergh. J'imagine que c'est impressionnant à voir et d'imaginer qu'il a passé 33 heures et 30 minutes à bord.
Oui, c'est un avion assez, très moderne pour l'époque, mais assez bizarre quand on le voit aujourd'hui. Je dirais que c'est une tente de camping sur un réservoir d'essence. Grosso modo, la tente de camping, c'est des toiles goudronnées comme ça qui sont tenues par des cordes à piano ou peu s'en faut. Et puis un énorme réservoir. L'avion fait 900 kilos et il emmène une tonne de carburant. Et effectivement, c'est un avion précaire, mais qui a un moteur de 220 chevaux qui marche très très bien et en tout cas qui est fiable, puisqu'il n'y a qu'un moteur, sinon plouf. C'est quelque chose d'assez étonnant et aujourd'hui, ça reste un avion moderne.
Stéphane est revenu sur le drame qu'a vécu Charles Lindbergh, l'événement et la mort de son fils aîné, Charles Jr. en 1932. Est-ce que c'est vraiment ça qui a causé une cassure chez lui ? Il y a eu un avant et un après ?
Oui, il y a forcément un avant et un après pour n'importe quel père de famille ou mère de famille. Mais encore une fois, il est sous les feux de la presse et de l'actualité. Donc toute la presse s'intéresse à ça. Il est abasourdi lui-même et surtout, ça va durer près de 4 ans cette histoire, entre le procès et la chasse à l'homme, entre guillemets, pour capturer cet Allemand dont on dit qu'il a été le coupable de cet événement. Et évidemment, c'est un traumatisme, encore une fois, surtout parce qu'il a la presse sur le dos à longueur de journée.
Dans votre livre, vous revenez sur un épisode moins connu de la vie de Charles Lindbergh, sa rencontre avec Alexis Carrel, grand chirurgien français et prix Nobel 1923. Pourtant, ce médecin a aussi une face plus sombre. Il adhère à des théories mystiques et surtout eugénistes pendant l'entre-deux-guerres. Il aurait eu, selon vous, une mauvaise influence sur Charles Lindbergh ?
Oui, je parle beaucoup dans le livre de cette rencontre parce qu'elle est importante. Elle se passe en France, d'abord. Ça se passe en Bretagne. Ça se passe entre l'île d'Illiec et l'île de Saint-Gildas, qu'on rejoint à marée basse à pied. Saint-Gildas est occupé par Carrel. L'île d'Illiec est occupée par Lindbergh, il va y habiter en 37 et en 38. Et entre les deux, il y a beaucoup d'échanges, effectivement. Carrel est un personnage assez bizarre, un chirurgien extrêmement doué, vous l'avez dit, il a eu le prix Nobel, et c'est le plus jeune prix Nobel de l'histoire en médecine. Et il repeint en noir ses blocs opératoires, lui-même s'habille en noir, c'est quelque chose d'assez bizarre. Il est religieux, il croit en Dieu, ce qui pour un chirurgien est assez compliqué. À l'inverse de Descartes, il pense que le corps et l'esprit font qu'un. C'est un homme qui croit en la biocratie plus qu'à la démocratie, et un peuple d'hommes sains, d'esprit et de corps. Et
ça devait plaire aux nazis.
Oh oui, bah justement, vous expliquez qu'Alexis Carrel salue l'initiative de l'Allemagne qui prend des mesures énergiques contre l'augmentation des minorités, des aliénés et des criminels. Et vous dites que Charles Lindbergh semble plutôt attentif à ces arguments. Les deux hommes, ils sont fascinés par l'Allemagne, c'est leur point commun.
Ben lui, Lindbergh, par d'autres raisons, c'est-à-dire qu'il est envoyé par les Américains, par le haut commandement de l'aviation américaine, il était envoyé en Allemagne pour aller sonder un petit peu les capacités allemandes en matière d'aviation. Il y va en 36 et il est estomaqué parce qu'il voit, parce qu'il y a une armée aérienne qui est en train de se monter et il alerte les États-Unis. Et en même temps, il est effectivement fasciné par ce pays. Il assiste aux Jeux Olympiques de 36. Il voit ce pays qui était en crise quelques années avant et qui est mobilisé pour reconstruire. Et effectivement, en rentrant aux États-Unis, il fait partie de ces 30% d'Américains qui sont contre l'entrée en guerre des Américains. Mais effectivement, entre Carrel et Lindbergh, il y a une influence énorme.
L'attaque de Pearl Harbor le fera changer d'avis sur la guerre. Jusqu'à présent, il était contre la participation, vous l'avez rappelé, des Américains dans le conflit. Et vous trouvez qu'il a mis trop de temps à prendre en compte ce qui se passait en Europe et ce que cela impliquait ?
Sincèrement, Lindbergh, tout ça se passe assez vite. Hein. Il fait 4 voyages en Allemagne, toujours commandité par l'armée américaine, en 36, 37 et 38. Et il revient aux États-Unis. Là, je pense que sa grosse erreur, c'est d'adhérer à un parti qui s'appelle America First, ça ne s'invente pas, qui est contre l'entrée en guerre des États-Unis en Europe. Il prend un vocabulaire et des idées, il faut le dire, antisémites. C'est indéniable. Il a écrit des choses effroyables là-dessus. Et il reste dans ce parti pendant 1 an et demi. Pearl Harbor arrive en décembre 1941. Les États-Unis sont agressés et lui, comme beaucoup d'autres Américains qui étaient sceptiques jusque-là pour entrer en guerre, décide d'y entrer. Et même s'il a passé l'âge de la conscription, il se fera engager. Il aborde un avion, il abattra même un avion japonais. Il participe à la guerre du Pacifique. Quoi. Donc, trop longtemps, oui, sans doute trop longtemps pour ce qui se passe d'horrible en Allemagne, c'est évident, mais relativement rapide aussi à l'échelle de sa vie. Quoi.
Est-ce que justement on lui a pardonné par la suite ses prises de position ou c'est toujours resté comme une tâche un peu sur son CV ?
Il a traversé un purgatoire, mais il est revenu totalement d'actualité à partir de 1953. Comme anecdote, non content d'avoir gagné le prix Pulitzer avec ses mémoires vont être adaptées au cinéma. Et au cinéma, c'est Billy Wilder qui met en scène le film. Billy Wilder est juif. Le producteur du film est Jack Warner, qui est juif. Donc je pense qu'effectivement, il y a eu une sorte d'absolution, d'oubli pas complètement, puisque ça restera une tâche pour lui, mais il y a tout de même, les Américains sont revenus en arrière. Quand les hommes sont allés sur la Lune, le premier personnage qu'on est allé chercher, c'est Lindbergh, pour qu'il félicite Armstrong.
Charles Lindbergh, on l'a dit, a entretenu plusieurs liaisons simultanées. Il semblait, je sais pas, obsédé par l'idée d'avoir plein d'enfants, surtout en Allemagne. Comment on explique ce désir-là ? C'était par orgueil ou pour combler le vide laissé par la mort de son fils aîné, alors même qu'il avait eu d'autres enfants, d'ailleurs, avec Anne, son épouse légitime.
C'était quelque chose d'assez bizarre, c'est le moins qu'on puisse dire. Vous avez raison, il y a de l'orgueil dedans. Après, ce trop-plein d'attention, d'être sous les feux de la rampe, etc., il avait envie d'une vie secrète. C'est ce qu'une de ses filles, vous l'avez rappelé dans votre portrait, a raconté. C'est que après, il a vécu presque en loose-day, toujours caché, toujours insaisissable, etc., par rapport à cette période où il était sous la lumière. Est-ce que 7 plus 5 enfants, 12 enfants remplacent un enfant assassiné précédemment ? Je n'en sais strictement rien. La seule chose qu'on peut dire, c'est qu'effectivement, les enfants allemands qu'il a eus ne lui ont jamais tenu rigueur de tout ça. Ces trois femmes se connaissaient parfaitement. Il faut se remémorer aussi qu'on est dans l'Allemagne juste après-guerre, qui est dominée par les femmes et par rapport aux hommes qui sont morts à la guerre, que procréer est une chose extrêmement importante en Allemagne et qu'elles ont trouvé sans doute l'homme idéal pour le faire.
Oui, il était secret, il est dans notre émission, il cachait bien leur jeu, mais il était secret pour l'opinion publique, pas pour on parlait de double vie, triple vie, mais en fait, les femmes, ses maîtresses et ses différentes femmes étaient au courant, en fait.
Son épouse légitime n'était pas au courant, ses premiers enfants.
Oui, c'est vrai. Alors, double vie seulement, il y a une partie qui était quand même connue.
Alors, il avait 10 jours avant sa mort, a envoyé une lettre à ses trois maîtresses allemandes, leur demandant le silence jusqu'à leur mort, et le silence qu'elles ont observé. Et c'est qu'une des petites enfants qui est partie en enquête pour savoir la vérité.
Ben merci beaucoup, Benoît Emmermann, d'être venu avec nous sur cet aviateur de légende qui cachait bien son jeu derrière son exploit. Je rappelle l'ouvrage que vous lui consacrez, Le Mystère Lindbergh, paru chez Stock.
Merci à vous.
Merci à vous.
Ici Europe 1. 16h-18h
sur Europe 1.
Stéphane Bern et Mathieu Noël. Historiquement.
Tous les jours, dès 16h, Historiquement Vôtre vous raconte l'histoire sans se la raconter elle. Elle nous raconte des histoires souvent bien cachées. C'est Clémentine Portier-Kaltenbach. Et bien cachée, Clémentine, eux, il l'était aussi. Hein. Vous nous racontez les Likov. C'est une famille restée pendant 40 ans au fin fond de la Sibérie.
Vous imaginez ça, Stéphane?
Oh là, non, non.
40 ans tout seul avec vos poules à Tirongardet, sans aucune nouvelle du monde extérieur.
Mais c'est difficile parce qu'on vit dans...
Vous êtes au cœur
de l'humanité. Vous pouvez construire une palissade. En tout cas, qu'est-ce qui s'est passé pour que les Likov aient fui complètement la société? C'est que dans le monde bolchevique athée, les croyants n'avaient pas la cote.
Oui,
or, Karp Likov et son frère étaient ce qu'on appelait, et ce qu'on appelle encore d'ailleurs, toujours des vieux croyants. Les vieux croyants, c'est une secte orthodoxe fondamentaliste. Voyez-vous, ce serait un petit peu les Amish ou les Quakers russes, en somme. Hein. Et ils refusent la modernité pour préserver leur culture. Mais alors là, les choses se sont passées de façon bien plus violente. C'est pas simplement qu'on les laissait pas vivre comme ils l'entendaient. C'est que le frère de Karp est exécuté par les bolcheviks pour ses convictions religieuses sous le nez de Karp Likov. Donc, il est complètement traumatisé et du coup, il décide d'emmener sa famille dans la taïga sibérienne. La taïga, le dernier et le plus grand désert de la Terre, 5 millions de kilomètres carrés de néant, de quoi se faire oublier du monde. Alors il part, il n'est pas tout seul, hein. Il emmène sa femme Akulina et leurs deux premiers enfants, deux autres naîtront dans la taïga. Et voilà la famille Likov qui s'enfonce dans la forêt jusqu'à trouver le lieu où s'établir, le lieu de sa nouvelle vie, une vallée, un cours d'eau, une vallée aux pentes verticales où prospèrent les pins. Bon, ça a l'air pas mal. Ils s'installent là, nous sommes en 1937. À partir de ce moment-là, ils vivent complètement isolés du monde extérieur. Et 40 ans plus tard, en 1978, un hélicoptère avec une équipe de géologues qui recherche des filons de minerais de fer dans la région survole ce territoire inexploré. Et tout d'un coup, le pilote de l'hélicoptère voit une clairière marquée par ce qui ressemble à de longs sillons sombres. Et il se dit, mais enfin, c'est pas possible, ce sont des cultures. Donc, on est quand même à 300 km du premier village. Pour gagner le premier village depuis l'endroit où sont installés les Likov dans la taïga, c'est 7 jours de marche à pied quand même, pour en avoir envie. Il ne faut pas avoir oublié le sel ou ses cigarettes. Alors, l'hélico atterrit, on explore les environs, et les géologues tombent alors sur une petite hutte. Et là, un vieil homme sort, il est pieds nus, les cheveux et la barbe ébouriffés. Il porte une chemise et un pantalon complètement rapiécés qui sont faits un peu comme des morceaux de sacs de toile qui seraient cousus ensemble. Et bien ce monsieur, c'est Karp Likov. Le sol de la hutte est fait d'épluchures de patates et de coquilles de pignons. Dans la maison, on imagine l'hystérie, parce que les enfants de Karp n'ont jamais, de leur vie, n'ont jamais vu un être humain autre que papa, maman, pas la bonne et moi, mais leurs frères et sœurs, si vous voulez. Les femmes pleurent, les enfants prient, enfin, ils sont absolument épouvantés. Puis la peur passée, c'est la curiosité qui prend le dessus. Qu'est-ce que c'est que ces intrus venus du ciel? Qu'est-ce que c'est que cet engin? C'est leur première rencontre avec la civilisation depuis 40 ans. Ils ignorent qu'il y a eu une première guerre mondiale, et leur vie... ici est d'une dureté absolue. À l'hiver 61, qui a été particulièrement rigoureux, Akulina, la femme de Karp, s'est laissée mourir de faim pour que ses enfants survivent. Et survivent comment? Survivent en mangeant l'écorce des arbres et le cuir de leurs chaussures. Ils ont toujours été, depuis 40 ans, à la limite de la famine. Bon, en temps normal, ils avaient quelques galettes de pommes de terre. Et le fils Dimitri allait chasser, bien sûr. Et de temps en temps, il rapportait un peu de viande à la maison. Il était capable de chasser pieds nus en hiver.
Ils n'avaient pas de chaussures, pas de vêtements, parce qu'il y avait
pas de boutique. Que si vous voulez, leurs vêtements d'origine étaient si vieux et si fichus qu'ils avaient fini par se désintégrer. Ils se faisaient des habits de chanvre plus ou moins tissés et cousus ensemble. Alors ce qui l'a fasciné, il n'arrivait absolument pas à croire que l'homme avait marché sur la Lune, ça c'était non, mais ce qui l'a beaucoup rassuré, c'est l'existence des satellites. On a essayé de lui expliquer ce que c'était parce qu'il ne comprenait pas. Pour lui, c'était une interrogation quotidienne et angoissante. Pourquoi les étoiles, tout d'un coup, un jour, s'était mise à bouger. Alors là, mystère. Donc, les satellites, ça l'a quand même rassuré. La famille aussi a été très bouleversée, émue et joyeuse de retrouver du sel, parce qu'elle manquait totalement de sel dans son alimentation. Alors, la suite est un petit peu triste, parce que peu de temps après la reprise de contact avec le monde extérieur, deux des enfants sont morts d'une insuffisance rénale due à des années de malnutrition. et le plus jeune fils Dimitri, celui qui chassait pieds nus, est mort d'une pneumonie probablement contractée auprès de ses nouveaux amis. Quant à Karp, il n'est mort qu'en 1988, ça n'est pas si vieux. Et seule la plus jeune des filles, Agafia, qui est née dans la forêt, a survécu et elle vit encore. Elle a 77 ans. Elle écrit et parle en slavon de la vieille église. Inutile de vous dire qu'elle n'a pas beaucoup d'interlocuteurs possibles. Elle vit avec une vingtaine de chats et quelques chèvres. Depuis quelques années, elle reçoit des visites très réglementées, des gens qui lui apportent des victuailles, des médicaments, qui viennent lui couper du bois. Alors les victuailles, elle veut bien, mais aucun produit emballé. Ça, il n'en est pas question. Ça, c'est impossible d'avaler ça.
Elle a écrit ses mémoires ou quelque
non,
chose ?
Non, pas du tout. Pas du tout. En 2021, on lui a construit une nouvelle maison dont les éléments ont été apportés par motoneige. Et vous imaginez,
donc
le monde...
Donc vit toujours dans
eh
la
ben oui, et le monde dans lequel elle a passé sa vie entière ne fait pas plus d'un kilomètre carré. Agafia Likova, la femme la plus solitaire de Russie, c'est une mine d'or de connaissances, d'expériences et de culture de la Russie telle qu'elle était il y a 5 ou 6 siècles. C'est ce qu'on appelle, et ce qu'on appelle dans d'autres pays, on appelle ça un trésor national. Monsieur. Agafia Likova.
Merci Clémentine.
Vous restez avec nous Clémentine ?
On va voir.
Le quiz.
Europe 1.
Historiquement vôtre.
Au-delà de votre rivalité, dans l'épreuve du quiz, il est temps de l'admettre un peu, Stéphane, quand même, Clémentine Portier-Kaltenbach est l'historienne pour laquelle vous avez le plus d'admiration.
Avec Hélène Ségara, que j'embrasse très fort.
Avec Hélène Ségara, bien sûr, mais elle n'est pas là. Donc jouons plutôt avec Clémentine, à Berne to be alive. J'aimerais commencer ce quiz dans le sérieux et la concentration la plus absolue, en évoquant la 6e dynastie égyptienne, et plus particulièrement Pépi II. Les avis divergent sur la longueur de son règne, sur Pépi, on ne sait pas. 94 ans, 64 ans. Ce qui est sûr, c'est qu'il officia en moins 2000 avant Jésus-Christ. Mmh. Ce qu'on sait aussi, c'est qu'il enduisait toujours un esclave de miel près de lui, car il détestait les mouches. Il est un peu l'inventeur du papier tue-mouche. Vrai ou faux, Stéphane ? Ne me dites pas qu'on n'est pas au cœur de l'histoire.
Pépi de la SNCF faisait pareil.
La tradition a perduré. Monsieur Pépi, si vous nous écoutez, je ne suis pas responsable de ces propos.
Il est resté longtemps, lui aussi. Mais son règne,
c'est un très long règne. Aussi,
très long règne.
Il est parti au bon moment.
Oui, bah oui.
Alors, Pépi,
c'est très tentant, voyez-vous. Mmh. Très tentant que les bêtes aillent
sur un esclave enduit de miel.
Bah oui.
Oui. Moi, je dirais oui. Ça me plaît bien, en tout cas, l'idée.
Vous avez...
Vous avez gagné, Stéphane. On le sait par les écrits que les esclaves étaient soit des hommes, soit des femmes, mais ils étaient toujours tout nus. Pensez-y cet été à Paros.
Qu'est-ce que c'est que cette idée autocratique monstrueuse ? Ça me plaît comme idée, dit-il. Là.
Ouais, ça me plaît.
Je me mets à la place du pharaon et ça devait être sympathique.
C'est fou la facilité
quelqu'un.
Avec laquelle vous vous mettez à la place du pharaon. C'est-à-dire on sent que c'est quelque chose de possible pour vous, c'est-à-dire d'avoir un esclave enduit de miel.
Que je préfère me mettre à la place du pharaon qu'à la place de l'esclave. À la place de l'esclave qui voit sa zigounette enduite de miel et piquée par les guêpes, les mouches et toutes les bêtes.
Hein? Plus on avance dans la saison, moins j'ai besoin de vous tendre de perles. C'est-à-dire que ça y est, là, on est déjà à la zigounette enduite de miel, il n'y a plus de limite.
Bah vous voyez,
ils étaient tout nus
enduits de miel.
Oui, donc
il
n'y
a pas de raison de laisser certaines parties du corps.
Ah, non, tout était enduit de miel. Avec Pépi II, il n'était pas là pour rigoler. Question numéro 2 pour vous, Clémentine. L'insuline a été découverte en 1889 par Joseph von Mehring, un Allemand. Au moment où il découvre le rôle du pancréas dans la maladie diabétique, il est sur l'île allemande de Norderney. En latin, il se dit insula. Ça donnera insuline. Vrai ou faux ?
Ah, très belle histoire. J'adhère absolument. Je dis oui.
Vous avez... perdu.
Beaucoup trop rapide, la Clémentine. Vous êtes partie bille en tête.
Oui, mais elle est très belle, cette histoire, que l'insuline vienne d'insula.
C'est faux.
Et en plus, c'est latin, c'est l'accent bêtement idiot.
C'est faux.
Ça aurait dû être en grec.
Bien sûr.
Plus.
Le monsieur était à Strasbourg.
J'étais trop vite.
Il était à Strasbourg. Insula veut bien dire île en latin, mais c'est parce que cette hormone régulatrice du taux de glucose dans le sang est sécrétée par les cellules des îlots de Langerhans qui sont situés dans le pancréas. Et ça a donné le nom insuline. C'était des petites îles dans le pancréas.
Je le savais,
bien sûr, vous les connaissez. Question numéro 3, Stéphane. Richard Gurley Drew naît en 1899. 31 ans plus tard, on lui doit l'invention d'un papier adhésif large. Américain d'origine écossaise, il a souvent une bouteille de scotch avec lui. On appellera donc son invention le scotch. Vrai ou faux ?
Faux.
Vous avez gagné !
C'était comme ça, vous l'avez
non,
dit ?
Non, parce que Scott, je crois que c'est les mots qui... ça vient pas du scotch whisky,
oui.
Papier adhérent.
C'est la définition du mot, c'est ça, ça serait des...
Oh, Stéphane risque de perdre son point.
Pourquoi?
Potentiellement. Bah parce que quand on me donne une bonne réponse, mais qu'ensuite on
non,
me donne une mauvaise
pas, hein.
explication,
je vous donne une
je
bonne
peux,
réponse.
Je me réserve le droit
mais c'est bien,
de, d'annuler
je,
ce point.
Ça me paraît
d'accord,
très
on verra,
juste.
On verra s'il si en est besoin.
J'ai mon point.
Donc, on a,
façon,
pour l'instant, vous l'avez.
J'ai deux points.
Alors, non, on a donné, écoutez, l'histoire est intéressante, on a donné le nom de scotch parce que sa première version n'avait du collant que sur les bords du ruban et pas au milieu. Ça donnait une image très bon marché au produit, un produit bas de gamme en somme. On a dit scotch comme écossais, un peuple qui avait une réputation de radinerie.
Ah oui, ça n'a rien à voir avec sa réponse.
Rien à voir
moi,
du
tout. Moi, je suis
tout.
Un peu gêné par
non,
ce point.
D'accord.
Parce
oui,
que...
oui, c'est un point
arrêtez.
Oui, c'est vrai, un point volé. Un point
non,
volé.
Mais oui, c'est
question
limite,
numéro...
là.
C'est... Oui, c'est
mais
vrai.
Et l'autre avec son insuline, non mais...
J'ai eu zéro, alors.
Oui, oui.
Question numéro 4, attention. Évoquons avec vous, Clémentine, la maison de Wittelsbach Ingolstadt en la personne d'Isabeau de Bavière, reine de France en 1385, en épousant Charles VI. Je n'irai pas par quatre chemins. Elle avait un ou deux piercings au téton, Isabeau de Bavière.
Oh, bah, je dirais qu'elle en avait un. Pourquoi ce...
Moi, je vous demande de bien réfléchir. Elle,
je
avait,
pense
un, elle
que
avait deux seins.
Tout bien réfléchi, elle en avait peut-être deux.
Deux seins,
vous
deux
avez...
piercings.
Oh oui, bravo, mais ça ne fait pas le compte parce que j'ai deux points, vous n'en avez qu'un,
non,
donc
mais,
j'ai gagné.
Non, parce que sur le scotch, votre
oui,
point
mais...
vous a été retiré.
Non, il ne va pas
non,
été
non,
retiré.
Non, non, pour explication
non,
pour explications douteuses
deux points,
et trop éloignées de la vérité.
Comme je vous l'ai expliqué.
Oui,
Stéphane,
non, pas de magouille.
Lorsque
bon.
Vous apportez une réponse au pif, en l'occurrence faux,
exactement.
Elle dit faux, comme ça, comme vous auriez pu
ça
dire vrai,
que puisque
vous n'aviez aucune idée. Et qu'ensuite, vous apportez, vous avez envie d'étaler votre culture en nous apportant
oui,
une explication alambiquée qui s'avère
c'est
fausse.
Vrai, c'est
dans ce cas-là,
vrai.
Le point est retiré. Égalité mais entre les deux compétiteurs. Question numéro 5.
C'est malhonnête. Vous êtes malhonnête.
C'est plus que malhonnête, c'est dégueulasse. En 1981, sort un film extraordinaire à Bollywood. C'est le fameux Ekduj Kelly.
Oh bah oui.
Avec quand même, excusez du peu sur l'écran, le génial Kamal Hassan et la sublime Rati Anguirotri. C'est clairement un succès mérité. Résultat, plus de 2,3 millions de dollars de recettes. Et en plus, une raison particulière fait que je peux
c'est
vous en
beaucoup,
parler.
C'est pas beaucoup, 2,3 millions de dollars.
Oh bah allez, tu sais, on...
C'était à quelle époque déjà
en 1981. Faut écouter les
en
questions.
En Inde, on peut faire des choses fabuleuses avec 2,3 millions de dollars. Pourquoi je vous en parle dans ce quiz ? Une raison, trois propositions. Il y a une version indienne des portes du pénitencier dans ce film. Il y a un homme politique français qui joue un rôle dans ce film où la musique du film a inspiré Britney Spears.
Un.
Vous, alors, une version indienne des portes du pénitencier dedans, j'ai hâte qu'on l'écoute. Et vous, vous pensez que ça a inspiré un... vous avez l'air d'en être sûr.
Oui.
Ça a inspiré une musique de Britney Spears.
Ouais, ouais.
Découvrons la réponse en musique. Incroyable, c'est Toxic de Britney Spears, qui est peut-être la meilleure chanson, il faut le dire, de Britney Spears. C'est inspiré de ce film de Bollywood. Et oui, incroyable. Alors là, vraiment, je suis scié.
Bravo, Stéphane.
Et Stéphane, je suis scié par votre connaissance musicale. Qui devait se limiter à Nana
Mouskouri,
mais finalement...
Dieu voulait que je gagne
oui, c'est pour ça.
Ce quiz, je l'ai gagné.
Il vous a soufflé trois la réponse à l'oreille, comme ça.
Oui, c'est...
Il parle
j'ai
comment,
entendu...
Dieu. C'était une voix un peu...
Non. Non, je n'ai pas de voix, mais c'est une voix intérieure.
Intérieure, ça a parlé en vous.
Bah chapeau, j'aimerais pas être un intérieur.
Qu'est-ce que ça veut dire quoi
ouais, si c'est pour écouter du Britney Spears façon Bollywood des années
ça,
80.
C'est toxique, c'est vraiment une chanson fabuleuse.
Ah non, mais tout à fait, oui, elle est fabuleuse.
De toute façon, depuis qu'elle est libérée...
Elle a complètement pété les plombs là, sur les réseaux sociaux. Maintenant, elle met des photos d'elle nue dès qu'elle peut.
J'ignorais, cette histoire est très très bien, bravo. Mention spéciale, pour le génial poseur de questions et pour le
non
le,
moins
et
génial
pour,
répondeur
et pour le juge arbitre de notre quiz.
C'est pas mal ça. Peut-être que demain vous partirez avec un point bonus.
Donc,
peut-être bien.
Plus on vous flatte,
mais
vous êtes bien.
Oui.
Mais plus on vous flatte,
plus les points. Je distribue les points comme ça allègrement. Oui.
Ouais. 16h-18h sur Europe 1.
Stéphane Bern et Mathieu Noël.
Historiquement vôtre.
Vous écoutez Historiquement vôtre, l'émission qui chaque après-midi vous raconte l'histoire sans se la raconter.
Mais en vous mentant parfois. C'est vrai Stéphane, longtemps vous m'avez fait croire que votre passion c'était l'histoire, alors qu'en fait, comme vous venez de me l'avouer hors antenne...
C'est l'alcool.
Je tombe de haut et je pense que nos auditeurs aussi Stéphane, mais vous aimez quand même un peu l'histoire. Un petit peu.
Évidemment Mathieu. Et bien plus que l'alcool que je ne bois que très peu.
Sauf aujourd'hui.
Non, je bois vraiment
c'est
très
vrai
peu.
C'est vrai que vous buvez très peu.
Mais seulement quand c'est bon. Ne jouez pas les nigauds, ils cachent bien leur jeu, c'est simplement le thème de l'émission du jour. Après le pilote dans la tourmente Charles Lindbergh, je vous raconte celle qui a bien caché son jeu à la cour du roi Louis XIV, qu'elle a mis dans son lit et dont elle a hanté l'esprit aux grandes dames de son mari, Madame de Montespan. Et puis de votre côté, je crois que ça y est, après 378 émissions, vous avez enfin cédé à la tentation égotique de brosser votre propre portrait, puisque vous nous racontez l'histoire de l'homme qu'on surnomme l'arnaqueur de Tinder.
Bon, rien à voir avec moi, Stéphane, je n'ai qu'un seul profil sur Adopte un Suisse. Non, aujourd'hui, je vous raconte l'arnaque invraisemblable, sorte de pyramide de Ponzi de la drague, mise en place par un milliardaire génial nommé Shimon Ayut, dont vous allez découvrir qu'il n'était en fait ni milliardaire, ni génial, contrairement à nos chroniqueurs.
Ah oui, ils sont vraiment géniaux, notamment...
Pas milliardaire, je vous confirme.
L'un plus que l'autre, mais je ne sais pas lequel. David Castillo-Lopez qui nous raconte les origines de la réalité virtuelle.
De la réalité virtuelle, mais plutôt de l'aspect technique de la réalité virtuelle. Je vais parler de mes déceptions de la réalité virtuelle, mais aussi...
De vos espoirs.
De mes espoirs, exactement.
Il y en a.
Et puis avec Olivier Pouls, eh bien on reviendra sur Terre. Avec des artichauts.
Ouais, c'est la saison, les petits artichauts violets, là, c'est délicieux. Et puis on va les préparer à la barigoule.
À la barigoule.
Qu'est-ce que ça veut dire
ça vient
la
de barigoule du sud.
Ça vient de la Provence, de l'Occitanie. Mais qu'est-ce que c'était que cette expression à la barigoule Et vous le saurez. Et puis vous aurez la recette aussi, évidemment.
La lutte finale, ça sera notre quiz de fin d'émission. Est-ce que Olivier Pouls, le Belge, continuera de ces victoires, cette
si
série de victoires insolentes.
Est-ce que je suis en tête? Vous êtes en tête.
Vous êtes en tête, vous gagnez tout le temps en ce moment. Ça sera donc à la toute fin de notre émission, mais pour l'heure, découvrons notre deuxième personnage du jour.
Europe 1.
16h-18h.
Historiquement vôtre. Stéphane Bern et Mathieu Noël.
Le récit.
Son mari est devenu à lui seul le symbole du cocu.
Mais oui, poète.
On ne parle pas de vous, Clémentine, on ne se permettrait pas vis-à-vis de votre mari. Elle, en revanche, s'est permis et a fini dans le lit du roi Louis XIV en cachant bien son jeu au reste de la cour. Stéphane Bern se permet aussi et nous raconte celle qu'on appelle la Montespan.
Nous sommes en mars 1669 dans une petite maison de la rue de l'Échelle à Paris. La maîtresse du roi Louis XIV, la marquise de Montespan, est sur le point d'accoucher de son premier enfant. Aux premières douleurs, une servante est allée chercher un médecin qui fait le trajet en carrosse, les yeux bandés, et découvre en arrivant une chambre très simplement meublée. Dans un lit se trouve la marquise. À ses côtés se tient un homme nerveux inquiet. Il s'agit de Louis XIV. Le médecin feint de ne pas reconnaître le souverain et demande à boire et à manger, ayant été enlevé juste avant son souper. Louis XIV apporte un pot de confiture, du pain et verse lui-même du vin à l'accoucheur qui lui propose de boire quelque chose. Le roi refuse. Souriant, le médecin lui dit que, pour que la parturiente soit promptement délivrée, il doit boire à sa santé. Cette scène, rapportée par la France galante au XVIIe siècle, est largement romancée, mais nous permet de voir les précautions exceptionnelles qui furent prises pour cacher la grossesse de Madame de Montespan. Françoise Athénaïs de Montespan, d'abord connue sous le nom de Mademoiselle de Tonnet-Charente, est née le 5 octobre 1640 dans le Poitou. Elle est la seconde fille de Gabriel de Rochechouart de Mortemart, premier gentilhomme de la chambre de Louis XIII et de Diane de Grandseigne. Françoise Athénaïs s'est élevée au couvent Sainte-Marie à Saintes, où elle apprend le nécessaire pour devenir une bonne épouse de haut rang, religion, économie domestique et bonne manière. À 20 ans, elle intègre la cour de Louis XIV comme fille d'honneur de la reine Marie-Thérèse d'Autriche, puis dame d'honneur après son mariage avec Louis-Henri de Pardaillan de Gondrin, marquis de Montespan. On murmure que la reine aurait souhaité des suivantes vieilles et laides pour ne pas tenter son époux Louis XIV, coureur de jupons notoires. Mauvaise pioche avec Madame de Montespan qui brille par son exceptionnelle beauté. Elle a une épaisse chevelure blonde, des yeux bleus et un teint éblouissant, sans compter que sa conversation est infiniment brillante. Elle pique le roi, le taquine, sans pour autant céder à ses avances. « Dieu me préserve de devenir la maîtresse du roi », aurait-elle dit à la propre femme de Louis XIV avant de se résoudre à lui ouvrir sa couche quelques jours plus tard lors d'un déplacement de la cour en Flandre. La reine ne soupçonne rien de cette liaison. Un jour, en dînant, elle se plaint que le roi se couche très tard le soir. Louis XIV lui répond que c'est parce qu'il est occupé à lire des dépêches. Et la reine de lui répondre « Mais vous pourriez prendre une autre heure ?» Le roi tourne la tête de côté pour dissimuler un sourire. Pour l'instant, la favorite officielle de Louis XIV, Louise de la Vallière, sert de paravent au couple, ce qui permet à Athénaïs de Montespan de préserver les apparences vis-à-vis de son propre mari. Comment apprend-il la nouvelle de son déshonneur ? Surprit-il des commérages ? On l'ignore. Toujours est-il que, mis au courant, le marquis élabore une vengeance des plus raffinées en fréquentant des prostituées pour attraper une maladie honteuse, la transmettre à sa femme et par elle contaminer le roi Louis XIV. La marquise de Montespan, épouvantée, fait tout pour l'éviter. Enceinte du roi, la Montespan donne le change en mettant à la mode une robe bouffante qui a l'avantage de cacher son ventre. Quand naît le second fils de la marquise et du roi, qui sera le futur duc du Maine, l'accouchement a lieu en secret au château de Saint-Germain. Un courtisan, dans la confidence, se charge d'emporter l'enfant sous son manteau et traverse ainsi l'appartement de la reine, tremblant que le bébé ne se mette à pleurer. Il remet le bébé à une gouvernante qui attend dans une voiture à la sortie du parc. Cette gouvernante, engagée par Madame de Montespan, qui n'a accepté cette tâche qu'à la demande expresse du roi, s'appelle Madame Scarron. Plus connue ensuite sous le nom de Madame de Maintenon, elle sera la dernière épouse de Louis XIV. Mais pour l'heure, elle élève les bâtards royaux dans la plus stricte discrétion, se déguisant pour leur rendre visite et se faisant même saigner de peur de trahir son secret en rougissant. Elle disparaît alors quasi totalement de la société mondaine. Enfin, après 6 ans de clandestinité, les enfants du roi et de Madame de Montespan, ils en auront 7 au total, sont légitimés en 1673 et peuvent se rendre à la cour où la faveur de la marquise de Montespan est à son zénith. Elle dispose d'un appartement plus grand et plus somptueux que celui de la reine Marie-Thérèse. Elle-même étouche une pension annuelle de 6000 livres. À cela s'ajoutent les nombreux présents que lui offre son royal amant, dont le château de Clagny, œuvre de Mansart, et le Trianon de porcelaine à Versailles. Autour de la marquise de Montespan, la vie de cour bat son plein. Dans les salons, on joue des sommes folles. Le soir, on navigue en gondole sur le canal, au son des musiciens. À 10h, une comédie est donnée. Quand minuit sonne, on fait medianoche, un repas pris au milieu de la nuit. Mais cette joie est factice. Avec l'âge et les nombreuses maternités, la beauté de la marquise se ternit. Et le roi regarde déjà ailleurs. Il lui laisse son rang de favorite en titre, mais la délaisse au profit de la duchesse de Fontange, une jeune nymphe aux cheveux d'or et aux grands yeux bleu-gris. Quand cette dernière meurt en 1681, des rumeurs d'assassinat courent. On accuse la marquise de Montespan, qui se trouve par ailleurs impliquée dans la célèbre affaire des poisons, une série de scandales impliquant des empoisonnements à la cour. Madame de Montespan aurait fait sacrifier des nouveaux-nés lors de messes noires. Elle aurait aussi fait fabriquer un philtre d'amour à destination du roi, qu'il évite désormais. Le souverain préfère passer de longues heures en compagnie de l'ancienne gouvernante de ses enfants, cette discrète veuve Scarron, engagée naguère par Athénaïs de Montespan et qui l'a faite marquise de Maintenon. Le roi lui donne un appartement contigu au sien, faisant ainsi publiquement éclater sa faveur aux yeux des courtisans. Désormais raillée par ceux qui autrefois la flattaient, se voyant retirer l'éducation de ses derniers enfants légitimés, la marquise de Montespan quitte la cour de Versailles. Réfugiée au couvent Saint-Joseph à Paris, puis au château d'Oiron, elle fait la preuve d'une fervente piété et consacre une partie de sa fortune à faire la charité. Elle s'éteint le 27 mai 1707, sans avoir revu Louis XIV, qui ne verse pas une larme en apprenant la nouvelle.
C'est pas très gentil.
Si le souverain pense en avoir fini avec son ancienne favorite, il se trompe. Lorsqu'il meurt à son tour en 1715, on expose sa dépouille sur un lit d'apparat descendu des combles du château de Versailles. Personne ne remarque alors que dans le ciel du lit se trouve un portrait oublié de Madame de Montespan dans ses années de gloire. Jusqu'au bout, la belle marquise a su tromper son monde pour rester dans la couche du roi.
Europe 1, historiquement vôtre.
Et pour continuer à parler de Madame de Montespan, nous sommes avec celle qui connaît bien le grand siècle au féminin. Bonjour Marie-Joëlle Guillaume.
Bonjour.
Bonjour Marie-Joëlle Guillaume. Vous venez de publier un ouvrage dédié aux grandes figures féminines du XVIIe siècle, Le grand siècle au féminin chez Perrin. Athénaïs de Montespan pourrait être l'une de ces grandes figures où sa position l'en empêche. Parce que c'est vrai qu'aux yeux de l'histoire, elle ne sera peut-être jamais une grande dame.
Alors si, bien sûr, c'était une grande dame. Madame de Montespan était une grande dame de deux manières. Par sa naissance d'abord. Oui. C'est une Rochechouart Mortemart. Or, les Rochechouarts appartiennent à la noblesse immémoriale du royaume. Celle qui remonte au-delà du XIe siècle, comme les La Rochefoucauld, les Noailles, les Montmorency. Elle avait d'ailleurs l'orgueil de sa naissance. Vous savez, elle se disputait souvent avec Louis XIV. Et avec quelque impertinence, elle n'hésitait pas à lui dire que sa noblesse à elle remontait plus loin que celle des Bourbons. Ensuite, elle a eu un destin brillant comme maîtresse royale à la cour de Louis XIV où scintillaient les lettres et les arts. Mais en fait, les grandes figures féminines que j'ai souhaité présenter dans mon livre ne sont pas d'abord des femmes au destin brillant. Il y en a eu beaucoup, surtout à Versailles. Ce sont de grandes dames auxquelles nous sommes redevables dans divers domaines d'une part essentielle de l'héritage culturel français. En fait, mon intuition, c'est que si le XVIIe siècle a été un âge d'or de la civilisation française, s'il a été, comme l'a dit un historien au XXe siècle, le grand siècle des âmes, il le doit d'abord à l'engagement de femmes d'élite dans les domaines de la spiritualité, de la culture ou de la politique. Alors c'est ce que j'ai souhaité montrer, c'est ce qui a guidé mon choix de portrait, qui d'ailleurs n'est pas exhaustif, on n'est jamais exhaustif.
Un petit point de contexte, quel est précisément son rôle de fille puis de dame d'honneur, en quoi ça consiste exactement?
Alors en fait, les dames et les filles d'honneur sont au service de la reine ou des princesses dans leur vie quotidienne. Elles appartiennent toujours à la noblesse. Elles sont élégantes et cultivées. Alors la première dame d'honneur a un vrai rôle de dame de compagnie. Mais toutes ont pour vocation de donner du lustre à la vie quotidienne de la reine par leur enjouement, leur participation active à ses loisirs et à ses conversations.
Madame de Montespan se résout à cette relation adultérine avec Louis XIV. Elle y est obligée d'une certaine manière parce qu'on ne peut rien refuser à Louis XIV, parce que refuser c'était aussi s'exiler et retourner sur ses terres assez loin, là où était son mari d'ailleurs.
Pas vraiment. En fait, il ne faut pas se fier trop à ses dénégations. Elle était ravie d'avoir été distinguée par Louis XIV. Elle l'a d'ailleurs aimé avec passion, même si la passion a été tumultueuse, ils se sont beaucoup disputés. Alors, on n'était pas obligé de céder au roi, mais enfin, je me permettrais de remarquer que, comme aujourd'hui et comme toujours, le pouvoir attire. Louis XIV était séduisant et les dames à la vertu légère ne se faisaient pas prier. Ils n'avaient vraiment que l'embarras du choix. Alors, quant au refus, une femme mariée pouvait se le permettre, parce qu'il s'agissait c'est quand même d'un adultère. Et le roi savait comment l'Église réagissait vis-à-vis de cela. Et donc, il pouvait comprendre les exigences de conscience. Donc, on pouvait refuser à Louis XIV. Mais il n'y en avait pas beaucoup qui avaient envie de le faire. Voilà.
Pour revenir à Madame de Montespan, au-delà de sa beauté, on a compris que le roi, de toute façon, était entouré de pas mal de beauté. Qu'est-ce qui séduit le roi chez elle? Est-ce qu'elle avait de l'esprit? Est-ce qu'elle aussi a été séduite par Louis XIV?
Oui, alors comme je vous le disais, elle aussi a été séduite par Louis XIV. Mais alors, dans sa première jeunesse, sa beauté était éblouissante. Elle répondait aux critères du temps, comme pour la duchesse de Longueville, la blonde aux yeux bleus avec un charme piquant. Mais oui, elle avait beaucoup d'esprit. Et c'était même le célèbre esprit de sa famille. On évoquait avec admiration le fameux esprit des Mortemart. Alors, je vais vous citer Madame de Sévigné qui disait « À la plus surprenante beauté, elle joignait l'esprit le plus vif, le plus fin, le mieux cultivé, cet esprit héréditaire dans sa famille. » En fait, c'était une qualité d'ironie, de moquerie, une manière de badiner en piquant l'interlocuteur, en singeant les courtisans le mieux en cour. C'était une sorte d'impertinence élégante, si vous voulez.
Mais là où elle cachait bien son jeu, c'est que c'était pas une gentille.
Ah non.
On peut le dire, c'était plutôt une langue de vipère.
Absolument.
Et je l'ai dit dans... enfin, on l'a vu aussi dans l'allée du roi, mais c'est vrai que... Elle a eu de nombreux enfants illégitimes qui sont ensuite légitimés avec le roi. Qu'est-ce que ça a changé dans leur statut, le fait que tout d'un coup le roi, sous sa pression à elle, ait légitimé ces bâtards?
Alors, il y a dans l'histoire de la monarchie beaucoup de légitimation de bâtards. En fait, légitimer un bâtard, c'était le reconnaître officiellement pour sien. Et pour les bâtards des rois de France, ça signifiait la possibilité de vivre à la cour et d'être titré selon un rang intermédiaire, si vous voulez, entre les princes du sang et les ducs et pairs. Alors, il y avait des attitudes nuancées selon les souverains. Vous savez que Henri IV faisait joyeusement cohabiter enfants légitimés.
Non, mais Saint-Simon est furieux quand il voit que lui qui est duc, les bâtards royaux vont lui passer devant.
Absolument. Alors, ils ont été légitimés en 1673. Hein. Les premiers enfants qui étaient déjà nés ont été légitimés. Ils en ont eu 7 en tout. À l'époque, il y en avait 3 de nés. Et la mère n'a pas été désignée pour éviter toute revendication de paternité de la part du marquis de Montespan. Alors, la conséquence immédiate de la légitimation, c'est que la clandestinité de Madame Scarron, qui élevait les enfants, va cesser. Début 1674, tout le monde s'installe à Saint-Germain. Mais alors, dans le cas des enfants du roi et de Madame de Montespan, il y aura une conséquence énorme à moyen terme. C'est qu'en 1714 et 1715, Louis XIV, en fait, violera la constitution coutumière du royaume en assimilant ses légitimés aux princes du sang et en essayant de les faire reconnaître comme successibles. C'est une des raisons aussi de la colère de Saint-Simon.
Dans votre livre, vous expliquez que Madame de Montespan est souvent d'humeur capricieuse et ses insolences et ses rancœurs finissent par lasser le roi. Elle sent son rôle de favorite lui échapper en fait à un moment.
Ben oui, parce que dans sa jeunesse, elle était très belle. Plus tard, la multiplication de ses grossesses ont un peu fané sa beauté, lui ont fait prendre beaucoup d'embonpoint. Elle est moins séduisante, elle le sent. Et comme elle a mauvais caractère, elle fait des scènes au roi au lieu d'essayer de le séduire à nouveau. Alors, dans la seconde partie de la décennie 70, les choses se gâtent vraiment. Après un moment d'ailleurs où les deux amants ont été pressés par Bossuet de se séparer pour retrouver un peu de vertu. Mais ça aura un effet particulier sur Louis XIV, c'est qu'à partir de 1676 jusqu'en 1679, il est en proie au contraire à une frénésie de passion charnelle. Alors, il n'abandonne pas Madame de Montespan, elle lui donne 2 nouveaux enfants. Mais enfin, les maîtresses se succèdent dans son lit, Madame de Soubise, Madame de Ludre, Madame de Tianges, et surtout, vous la citiez tout à l'heure, Mademoiselle de Fontanges, 18 ans, que Louis XIV couvre de bijoux. Alors oui, Madame de Montespan sent bien son rôle de favorite lui échapper. Et sans doute est-ce pour cela qu'elle cherche à reconquérir le roi par l'entremise d'aphrodisiaques douteux.
Est-ce que c'est ce caractère difficile qui fait qu'elle sera ensuite accusée dans l'affaire des poisons? Est-ce que est-ce aussi une stratégie du roi pour la disgracier auprès de la cour?
Non. En fait, le roi est de bonne foi dans cette effroyable et sordide affaire. La seconde affaire des poisons, celle qui met en cause de grands noms de la cour, éclate en mars 79. Et c'est seulement à l'automne que le roi découvre avec effarement l'hypothèse de l'implication de sa favorite. Alors, il est sincèrement épouvanté de découvrir le degré d'avilissement moral de la cour et de la ville, mais il cherche à étouffer le scandale qui éclabousse beaucoup de ses proches. Et il le cherche aussi vis-à-vis de Madame de Montespan, qui restera à Versailles, même si le roi marque désormais ses distances. Alors, vous savez, le rôle exact de la favorite dans l'affaire des poisons n'a pas été tiré au clair. On lui a sans doute prêté plus de noirceur qu'elle n'en a commise. Mais Louis XIV est épouvanté par les révélations, entre guillemets, vraies ou fausses, sur ses proches. Et du coup, il a jeté au feu une part des documents recueillis par le lieutenant de police Larénie, si bien que nombre d'arcanes de cette histoire nous échapperont toujours.
Merci beaucoup Marie-Joëlle Guillaume d'être venue avec nous sur cette favorite du roi qui cachait bien son jeu et qui a fini par fuir la cour. Je rappelle votre ouvrage « Le grand siècle au féminin » paru chez Perrin pour nos auditeurs qui souhaiteraient en savoir plus sur les grandes figures féminines du XVIIe siècle et notamment sur Madame de Maintenon. Connaissez cette phrase vous montez et moi je descends.
Ah oui, elles
se sont croisées. Il faut toujours penser, d'ailleurs, dans la vie professionnelle, que les ascenseurs montent et descendent.
Vous me regardez, j'aime pas ce regard que vous me lancez, Stéphane.
Je crois
comprendre.
16h-18h sur Europe 1.
Stéphane Bern et Mathieu Noël.
Historiquement vôtre.
Aujourd'hui, dans Historiquement Vôtre, on évoque des personnages qui cachent bien leur jeu. Après Charles Lindbergh et Madame de Montespan, vous nous brossez, Mathieu, le portrait d'un arnaqueur encore en activité, Shimon Hayut, dit l'arnaqueur de Tinder.
Sur Tinder, vous le savez, Stéphane, on fait parfois de drôles de rencontres.
Et alors, j'ai rencontré un type très charmant.
Oui.
Il s'appelle Bob l'éponge.
Oui, mais en même temps, vous étiez bourré, Stéphane. Et même un jeune. On fait.
Mais c'est pas jamais
Tinder
qu'on rencontre Bob l'éponge.
Bon, si, il y a des pseudos étonnants. Oui. On n'est jamais à l'abri de se faire avoir. Combien de filles racontent être tombées dans le piège tendu par David Castello-Lopez qui, sur Tinder, se fait passer pour
Laurent Mariotte.
Oui, sur Tinder, globalement, tout le monde ment. mais certains mentent quand même plus que d'autres. C'est le cas de mon Shimon Ayout. Ce nom vous dit peut-être rien, mais si vous avez Netflix, vous devez plutôt le connaître sous son faux nom, Simon Léviève. Car dans sa fausse vie, Simon n'est pas le fils d'une mère au foyer d'un quartier pauvre de Tel Aviv, non. Il est le fils d'un mania du diamant russo-israélien Lev Léviève, sur les photos de famille duquel il s'est d'ailleurs incrusté grâce à Photoshop. Oh oui, mon personnage du jour est un fiefé filou dont vous pouvez découvrir l'incroyable histoire dans la série de Netflix intitulée L'arnaqueur de Tinder. Mais si vous n'avez pas Netflix, alors je serai votre Netflix gratuit. Simon Léviève était sur Tinder un véritable prince charmant. Son profil émaillé de photos engageantes où on le voyait s'asperger de champagne sur des yachts ou de se gaver de caviar dans son jet privé agissait comme un aimant pour des filles esselées et pas du tout vénales. En 2 ans, Simon va leur soutirer 10 millions d'euros. Comment est-ce possible ? Remontons le fil du temps, direction Israël. Le berceau de notre arnaqueur, dont il est difficile de savoir exactement quand il est né, entre 88 et 91. Ce garçon, vous l'avez deviné, est très secret. En 2011, il est déjà poursuivi une première fois pour fraude et vol de chèques. Il fuit son pays avant le procès et trouve refuge en Finlande. La Finlande, la Suède, tout ça c'est très proche. Là-bas, il est accusé de fraude par 3 femmes et passe 2 ans derrière les barreaux. À sa libération, il retourne en Terre Sainte. Mais pas folle la guêpe, il change de nom. Il s'appellera désormais Simon Léviève, pseudo-fils donc du riche diamantaire Lev Léviève. La légende dit que l'idée de cette mystification lui serait venue en likant une vidéo d'un journaliste humoriste portugais sur YouTube.
Je possède des thunes.
Simon se dit, tiens, le mec engrange plein de vues en faisant croire qu'il a des thunes, alors que si ça se trouve, il bosse à Europe 1. Je vais faire pareil. Pilier de sa stratégie, son compte Instagram. Car vous le savez Stéphane, quand on crush sur Tinder, avant d'accepter le date, on va toujours stocker la personne sur Insta. Simon s'y affiche bronzant sur un yacht, chillant dans une Bentley, toujours en compagnie de créatures sublimes. Son compte est suivi par 100 000 followers, dont une bonne partie achetée sur le marché noir de la popularité numérique. Phase 2, après le crush, Simon donne rendez-vous à sa proie dans un hôtel 5 étoiles. C'est déjà magique, mais après la coupe de champagne, c'est là qu'il sort vraiment le grand jeu. Le voyage à l'improviste, comme ça en jet privé, vers une grande capitale européenne. La fille en prend plein les yeux et généralement, le lendemain, elle se réveille amoureuse, d'autant qu'en grand professionnel, Simon veille à la couvrir de cadeaux avant de repartir pour affaires. Persuadée d'avoir trouvé l'homme de sa vie, la victime envisage alors très vite de fonder un foyer avec Simon, qui lui annonce d'ailleurs un budget illimité pour rechercher un appartement de luxe susceptible d'héberger leur future famille. À titre d'exemple, une des victimes, Cécile, raconte « Il avait un charme fou, il m'a donné un budget de 15 000 euros par mois pour chercher notre futur appartement. Je n'avais aucune raison de douter de lui. J'étais sur un petit nuage, bien sûr, aucune raison de douter d'un mec que tu connais depuis 2 jours et qui te file un budget de 15 000 boules pour trouver un appart. » Bon. À leur décharge, le Simon est un grand malade de la manipulation puisque le schéma est donc le suivant. Une fois qu'il a laissé la première victime des rêves plein la tête, il fonce vers une autre capitale européenne, reproduire la même séquence avec une deuxième proie et ainsi de suite. Mais comment finance-t-il son train de vie, les jets, les hôtels ? Eh bien, en faisant cracher au bassinet la première victime de la chaîne des victimes. C'est une pyramide de Ponzi de la drague. Le scénario bien rodé est aussi hallucinant qu'immuable. Au bout de quelques semaines de promesses d'avenir commun, Simon envoie des photos mises en scène de lui ensanglanté. Avec son garde du corps, aka son complice, ils auraient été victimes d'une terrible agression. La voix tremblante limite en larmes, il explique à la fille que des ennemis très dangereux sont à ses trousses, en veulent à son immense fortune, bloquent ses comptes, piratent ses cartes de crédit. Alors il a une toute petite faveur à demander à la femme de sa vie. L'espace de quelques semaines, lui virer de l'argent sur un compte sécurisé que ses ennemis ne peuvent pas hacker. Et bien sûr, Stéphane, vous vous doutez bien que les sommes dont Simon a besoin ne sont pas transférables par Lydia. Non, il a besoin de 20 000, puis 30 000, puis rapidement 100 000 euros. Les malheureuses victimes, persuadées que la vie de leur prince charmant est en péril, n'hésitent pas, elles payent. Et comme elles ne sont souvent pas bien riches, elles s'endettent. L'une d'elles, la fameuse Cécile, toujours, va lui verser 220 000 euros. Débute alors la troisième phase de l'arnaque. Salut. Après avoir envoyé des SMS tous les quarts d'heure pendant 2 mois, soudain, Simon disparaît des radars et de la vie de ses victimes. Ce schéma va fonctionner pendant 2 ans, jusqu'à ce que, désespérées et bafouées, ses victimes commencent quand même à enquêter, à se rencontrer et à partager leur expérience. Ensemble, elles décident de confier leur histoire au journal norvégien Verdensgang, qui dévoile l'ampleur de l'arnaque et va inspirer le fameux documentaire Netflix. En juillet 2019, grâce à leur témoignage, Simon est arrêté en Grèce, puis extradé en Israël où il est condamné à 15 mois de prison. Alors, il n'en fera que 5, puis il sera libéré par anticipation en raison de la crise sanitaire de 2020. Depuis, notre arnaqueur sans cœur vit entre Londres et Tel Aviv, dans la joie et la bonne humeur avec une mannequin israélienne avec qui il dirige sans complexe une entreprise de conseil en ligne sous son véritable nom. stupéfaction, vous l'imaginez, de ce que Stéphane appelle
le groupe des pains beiges.
Mais qui sont avant tout des victimes, Stéphane. Cela nous rend dingue. Des victimes. Cela nous rend dingue. Nous, nous avons pris perpétuité avec les crédits que nous devons rembourser, sans même parler du traumatisme d'avoir été trompé à ce point. Ben oui, quand même, Stéphane pourrait faire preuve d'un peu de compassion. Ça peut arriver à tout le monde. Oui. Vous-même, si je ne m'abuse, vous avez déjà été victime d'un usurpateur d'identité. Souvenez-vous de l'histoire dite du jus de l'eau dans l'Eurostar.
J'ai pris un Eurostar avec lui.
Vous vous êtes retrouvé dans l'Eurostar
face. Ah oui, en famille.
Ah, il était en famille.
Oui, bah oui, ça arrive.
Stéphane, c'est vrai que vous êtes très grand. Donc vous voyez les gens petits, mais sur Wikipédia, il est écrit jus de l'eau 1m82.
Non, arrêtez. Alors c'était peut-être pas le jus de l'eau.
On peut d'abord se tomber dans le panneau comme ça d'un arnaqueur, Stéphane. Bientôt sur Netflix, cette aventure dans l'Eurostar. En attendant, Simon, lui.
Non, ça mérite pas.
Oh, si, on peut faire, à mon avis, 12 épisodes.
Ah, non.
12 épisodes de 50 minutes. En attendant, Simon, lui, continue de narguer tout le monde. Invité dans les médias, il clame son innocence, niant toute escroquerie, évoquant simplement, il est vraiment gonflé, des prêts entre amis qui ont mal tourné. Mais, au titre des rares motifs de satisfaction, on notera qu'il a quand même fini par se faire bannir de Tinder. Et le mois dernier, c'est lui qui s'est fait arnaquer. Il a voulu acheter la petite virgule bleue à côté de son nom sur Instagram, symbole des comptes certifiés, à une jeune femme qui se présentait comme employée chez Meta, sauf qu'elle ne l'était pas. 6 600 euros dans le baba, Simon, c'est déjà ça, pas grand-chose. Mais bon, le meilleur est certainement à venir, car son faux papa s'est réveillé aussi. Vous savez, c'est le diamantaire. Là, ça y est, il attaque en justice. Là, ça va peut-être faire mal. Espérons qu'un jour, Simon soit condamné à rembourser ses victimes. En attendant, Stéphane, je vous le répète, sur Tinder, méfiez-vous de qui vous likez.
Et alors, j'ai rencontré un type très charmant
qui
s'appelle Bandy Panda, grâce à Orlando.
Grâce à Orlando, même qui est encore fourré la soirée là. Il faut vraiment arrêter vos fréquentations, c'est
j'aime bien parce que vous mettez des bouts de phrases.
Là, je vous imagine avec Pandu Panda grâce à Orlando.
Vous mettez des boules phrases, les
uns mais en même temps, ça résume bien votre vie. L'autre jour, vous me disiez, parfois, vous commencez des phrases sans que j'ai besoin de faire de montage. Oui. Vous me disiez, l'autre jour, avec Massimo Gardia, on est allé. Il n'y a que vous qui connaissez Massimo Gardia.
Il y a 25 ans.
Oui, c'est 25 ans, mais vous alliez chez Françoise Sagan pour voir Johnny Hallyday. Enfin, c'est des phrases aberrantes, si vous voulez. Donc là, mes montages, finalement, sont assez proches de la réalité.
Bon. En tout cas, merci Mathieu.
Europe 1, historiquement vôtre.
Il est l'heure de dire au revoir à nos personnages du jour qui cachaient bien leur jeu.
Pour retrouver un chroniqueur qui lui aussi cache bien son jeu, puisque sur Tinder, il recherche l'amour avec une fille, mais pas que.
Ou même entre garçons. Oui.
Sacré David ! Méfiez-vous, Olivier, votre collègue est quelqu'un de très ouvert d'esprit. Aujourd'hui, montrez-lui votre artichaut à la barigoule.
c'est mainstream maintenant, tout ça. Non, c'est pas...
Alors l'artichaut, c'est la saison.
Oui, et à la barigoule, vous saurez ce que c'est tout à l'heure.
Mais je sais déjà ce que c'est, j'adore les artichauts à la barigoule. Mais si, je sais.
Eh ben, on va voir.
J'ai déjà mangé un artichaut à la barigoule. Mmh. Mais d'abord, les origines de quelque chose qui fait notre quotidien, en tout cas si on est un tout petit peu branché high-tech, c'est la réalité virtuelle, David Castello-Lopez.
Moi j'ai du mal à compter le nombre de fois depuis 25 ans où j'ai été déçu par la réalité virtuelle. Ça devait révolutionner les médias, tout changer, faire de nos appartements des sortes de vaisseaux du futur de fou. Et si on est honnête, la réalité virtuelle, pour l'instant, elle a pas fait tout ça, hein, rien du tout, non. Tout ça. À une petite exception près, peut-être, dont je parlerai à la fin de ma chronique. Ouh.
Ah, bon. Le porno en VR.
Mais va relier ces deux chroniques Pornhub en réalité virtuelle.
Mais même pas, je sais pas pourquoi j'ai fait ce bruit porno. C'était juste le bruit du suspense plutôt que le bruit du porno. Bon, déjà, la réalité virtuelle, c'est quoi ? C'est faire croire de façon plus ou moins réussie à notre cerveau qu'on ne se trouve pas là où on se trouve, mais ailleurs. De remplacer donc la vraie réalité par une fausse réalité qui a l'air aussi vraie que la vraie. Et l'une des façons principales qu'on a de faire ça, c'est ce qu'on appelle l'immersion. L'immersion, c'est faire en sorte de bloquer notre perception de la vraie réalité pour pouvoir la remplacer par la fausse. Et de ce point de vue-là, on peut dire que le plus ancien essai de réalité virtuelle de l'histoire, c'est celui de la stéréoscopie. Vous vous souvenez de la stéréoscopie ou pas ?
Pas du tout.
Pas du tout. C'est un procédé photographique inventé au 19e siècle dans lequel on prend deux photos simultanément avec deux appareils, deux objectifs. Ensuite, on les imprime, on les met côte à côte et quand on les regarde à travers un petit appareil construit exprès, eh bien, on a l'impression qu'elles sont un peu en trois dimensions et comme l'appareil qu'on se met sur les yeux cache tout ce qui n'est pas les photos, on a un peu l'impression d'être à l'intérieur des photos. D'une certaine façon,
et
c'est
des disques ronds, c'était des petits appareils.
Exactement,
comme ça.
C'était un jouet qui. En fait, ça a fini par donner ça à la fin des années 30. J'ai oublié le nom de l'appareil, mais le truc
où c'est claquage.
ViewMaster, exactement.
Vous faisiez quel âge dans les années 30, Olivier ?
Non, mais c'est resté. Mais vous avez connu ça,
les claquages.
Oui.
J'ai pas connu ça.
J'avais les marmottes, les meilleures marmottes de la Vanoise, moi, avec un ViewMaster.
Oh, quelle tristesse cette phrase.
Ça explique beaucoup de choses. Ça explique beaucoup de ce que vous êtes devenu.
Oh là là. Bon, j'aurais pas dû aller sur ce terrain-là. Oui, et que, dans les années 50, il y a un monsieur américain qui s'appelait Morton Ehlig, qui a inventé quelque chose d'un petit peu différent, qui s'appelait le sensorama. Le sensorama, c'était une sorte de petite cabine devant laquelle on s'asseyait. On mettait la tête dans un trou et on pouvait regarder un film filmé en caméra subjective, un peu en mode 4DX, si vous voulez. Genre, vous étiez sur une moto, vous aviez l'impression de dévaler une pente et en plus, la machine vous envoyait un peu de vent sur les genoux pour faire genre. Et à partir de là, les grandes avancées dans le domaine de la réalité virtuelle, elles ont été faites d'une part par l'armée, pour entraîner leurs pilotes, par exemple, à piloter des avions sans prendre de risques dans de vrais avions, et d'autre part, par les jeux vidéo. Le terme, lui, réalité virtuelle, il date de la fin des années 80, donc c'est assez ancien, même si la réalité est un petit peu d'avant. Il y a plusieurs entreprises dans les années 90 qui ont développé des systèmes plus ou moins immersifs pour le visage des gens. Moi, je me souviens très bien, à Cannes, en 1995, de faire un test de réalité virtuelle dans un salon comme ça, et de trouver ça naze, il fallait faire la queue une demi-heure, puis on est arrivé, alors oui, quand on tournait la tête, ça tournait aussi la tête dans le truc, mais enfin c'était quand même extrêmement décevant, c'était tout pixelisé, tout ça. En 2016, on pensait que ce serait le début d'une ère incroyable, avec l'Oculus Rift,
ah oui.
Vous vous souvenez à ce moment-là, je me souviens très bien, il y a une salle de cinéma en réalité virtuelle qui a ouvert à Paris, j'y suis allé tout de suite pour voir des films réalisés spécialement en réalité virtuelle, et encore une fois, j'ai été déçu parce que c'était juste moins bien vrai film. Mais peut-être que l'âge d'or de la réalité virtuelle, l'âge mûr de la réalité virtuelle est finalement arrivé. En tout cas, j'ai cette impression depuis la semaine dernière, parce que la semaine dernière, je suis allé dans un nouvel endroit qu'il y a à La Défense et dans lequel on peut visiter virtuellement la cathédrale Notre-Dame à travers les âges. Vous entrez dans une pièce.
Vous avez le masque.
Vous entrez dans une pièce, on vous donne une sorte de sac à dos du futur, on met ces énormes lunettes sur la tête, et tout à coup, vous marchez dans Paris, au XIIIe siècle, vous voyez des maçons qui taillent la pierre, vous montez dans des ascenseurs virtuels qui vous emmènent à 40 mètres du sol, vous voyez les autres gens autour de vous, vous les voyez.
Les autres visiteurs, vous voulez dire ?
Oui, les autres visiteurs.
On peut, mais on les voit.
Si on les voit, et si vous courez vers une silhouette que vous avez vous courez vraiment vers quelqu'un et vous allez le sentir. C'est quand même super bien fait. Vous pouvez aussi inspecter de super près les dégâts de l'incendie. Il y a même des images des travaux. On peut être dans la charpente avec les ouvriers qui travaillent en même temps. Ça s'appelle Éternel Notre-Dame. Oui. Vous pouvez y aller jusqu'au 29 mai et franchement, vous ne serez pas déçus.
Merci David, bravo.
Merci David et on retrouve les origines en podcast. Évidemment. Sur toutes les applis audio, en vidéo aussi sur YouTube et Dailymotion et sur le site europe1.fr.
Bientôt en réalité augmentée. L'artichaut à la barigoule.
Voilà, ça, c'est
le plat
pas de la réalité
virtuelle.
Alors là, virtuelle,
on revient vraiment au côté terrien de notre émission avec vous, Olivier Poul. C'est un bon petit plat de chez nous. C'est la saison des artichauts.
Ouais. Parce que s'il y a bien un truc qu'on ne pourra jamais faire en réalité augmentée ou virtuelle, c'est la cuisine.
C'est le goût.
Eh oui, le goût. Ah, ça reste quand même quelque chose, à mon avis, d'inimitable. Le goût de l'artichaut, du vrai petit artichaut violet, celui qu'on appelle aussi l'artichaut poivrade, celui qui pousse au bord de la Méditerranée, qui arrive au printemps, qui a ce goût inimitable, cette texture, ce fondant. Et qu'on peut préparer à la barigoule. Alors, puisque vous faisiez le malin tout à l'heure, mon cher Mathieu, expliquez-nous ce que c'est qu'à la barigoule.
Bien, la barigoule, c'est très simple. Vous prenez de l'huile d'olive, prenez votre artichaut, vous faites saisir, vous le faites
cuire. Vous faites un singe.
Vous singez, évidemment, c'est et ensuite, ça, ouais. Vous avez un artichaut à la barigoule. Quelques herbes de Provence, emballées,
voilà.
C'est pesé.
Ouais. Bon, ben, on n'y est pas tout à fait quand même, parce que la préparation à la barigoule, qui remonte au XVIIe siècle, aujourd'hui, vous ne pouvez plus la faire tel qu'on la faisait à l'époque.
Pourquoi donc ?
Alors pourquoi ? Parce qu'il manque un ingrédient
qui n'existe plus.
Qu'est-ce qu'étaient les barigoules ? Les barigoules, c'était des petits champignons sauvages, des lactaires, avec une tête un peu plate, et ces champignons ont disparu. Ils n'existent plus. Nada, fini, terminé.
Sur la terre
éteints.
Entière.
Ils sont éteints.
Éteints, probablement dû à un parasite à un moment. Et peut-être aussi
à trop d'artichauts à la barigoule.
Non, parce que vous savez, ça repousse tous les ans. Ouais. Quand il y a des spores dans le sol, en principe, ça revient. Mais ils ont disparu. Alors, on les a remplacés dans les autres recettes par la suite, au fil des années, par des champignons de Paris. C'est pas mal non plus, hein, c'est bon. Parce que oui, il y a une vraie question, mais la réponse est oui, il y a des champignons dans l'authentique recette des artichauts à la barigoule.
Mais plus aujourd'hui.
Si, dans la vraie. Et d'ailleurs, ceux qui font la vraie recette traditionnelle mettent un petit peu de champignons de Paris. C'est vrai qu'un certain nombre ne les mettent pas, mais normalement, si on veut la faire, on met des champignons dedans. Alors, la recette, justement, ben là, voici. Vous prenez des petits artichauts violets, ceux qu'on trouve en ce moment. L'artichaut, c'est un cousin du chardon, d'ailleurs. Une petite plante, ouais, un cousin du chardon.
Je ne le regarderai plus de la même manière.
Mais oui, c'est vrai.
Et alors, il faut ce qu'on appelle les tourner. C'est-à-dire que vous allez prendre un couteau et vous allez, tout au long de l'artichaut, enlever les premières feuilles. Vous cassez la tige. Elle va se casser à peu près à 2-3 cm. Vous, avec un économe, vous enlevez la petite peau qu'il y a et tout de suite, ces artichauts, vous les plongez dans de l'eau citronnée parce que sinon, évidemment, ils ont tendance à noircir, ils s'oxydent. Et alors, vous allez faire la sauce à la barigoule. Donc, pour ça, une carotte, une branche de céleri, une échalote, quelques champignons de Paris, donc un peu de vin blanc, des lardons, une gousse d'ail, un peu de thym et de laurier, du bouillon de volaille et quelques feuilles de basilic pour la fin. Alors, on taille les légumes très, très finement en brunoise. On les fait revenir dans un petit peu d'huile d'olive, on rajoute le vin blanc, on rajoute le bouillon de volaille, on rajoute nos artichauts qu'on a juste coupés en deux, on va laisser mijoter ça pendant 15-20 minutes, on vérifie qu'une pointe de couteau que l'artichaut soit bien cuit. Ensuite, on va sortir les artichauts, on va réduire un petit peu cette sauce et on va tout simplement servir les artichauts avec la sauce au lardon, les petits champignons, les petits légumes taillés en petits morceaux, la sauce bien réduite, quelques feuilles de basilic pour la décoration.
C'est un plat en soi, c'est un accompagnement.
Alors, certains l'utilisent en accompagnement, mais moi je trouve que c'est une bonne entrée.
C'est une belle entrée
de saison. Et surtout, mettez un petit peu de champignons dans les
et au besoin du parmesan comme font les Italiens.
Alors, l'artichaut et le parmesan se marient très bien, mais dans cette recette-là, non, c'est plutôt à la romaine. Oui. Ouais. Mais il y a plein de choses. Vous savez, ces petits artichauts que j'adore, les petits violets, vous pouvez même les manger crus. Hein. Oui. Une fois que vous avez enlevé les feuilles...
Les Italiens, c'est ce qu'ils font.
Exactement, ils les font en carpaccio. Donc, taillé très finement. Voilà, taillé très finement, avec un filet d'huile d'olive et un peu de parmesan. Ils ont encore le petit côté croquant, c'est magnifique.
Merci Olivier, on retrouve toutes vos recettes sur le site europe1.fr.
Ah là, vous êtes bien régalé avec les artichauts. Ben, on va se régaler avec l'histoire, maintenant c'est la lutte finale.
Europe 1, historiquement vôtre.
Olivier, la chemise à ouverture parisienne fut à la mode au milieu du 19e siècle. Elle se boutonnait comme les chemises actuelles, mais il y avait aussi 5 boutons à chaque manche pour qu'on voit mieux les bras. C'est vrai ou c'est faux ?
5. Ça pourrait être 4, ça pourrait être 6. Pourquoi pas 5 ? C'est un peu long à...
Chemise à ouverture parisienne.
Ouais.
Ça évoque quoi pour vous ?
Bah, pas forcément la chemise qu'on met sur soi. C'est probablement autre chose. Donc je dis que c'est faux. Voilà.
Oui, c'est la chemise de nuit au XVIIIe siècle.
Il n'y a pas les chemises comme
chemise d'ouverture parisienne, oui. Il y avait juste une toute petite ouverture au niveau de là où c'est nécessaire la nuit, si vous avez un petit besoin. Et qui permettait au mari aussi de procréer pendant...
Il n'enlevait même pas ça.
Ça devait être beau à voir ça, des gens tout debout avec une chemise de nuit. Et juste
on l'appelait aussi la chemise de la famille chrétienne.
Encore plus sexy.
Oui. Mathieu, symbole sexy des années 50 et 60, Jane Mansfield fut une actrice, chanteuse et artiste de cabaret. Qu'est-ce qui était le plus gros chez elle ? Son QI ou son tour de poitrine ?
Ça serait d'une triste platitude que ce soit son tour de poitrine, donc j'ai envie de dire son QI.
Elle avait un QI de 163, elle parlait 5 langues, pratiquait le violon et le piano, mais elle avait un tour de poitrine de 115.
Ce qui est déjà pas mal.
Elle est morte tristement.
Oui, c'est horrible.
Non, vous la connaissez
dans
bien.
Un accident de voiture.
Ouais, c'est horrible.
La moitié décapitée.
Le pervers qui va jusqu'au bout de l'anecdote.
Et son fils qui était derrière, il est resté en ville.
Ah, oui. Heureusement, ça finit bien votre anecdote.
Bah oui, mais en fait, tu vois ta mère mourir sous tes yeux.
Oui,
c'est pas drôle. David Castello Lopez. Le 5 juillet 1845, Victor Hugo est pris en flagrant délit d'adultère avec Léonie Biard dans un hôtel de passage. Dans un hôtel, pardon, du passage Saint-Roch à Paris. Qui va en prison ? Personne ? Victor Hugo ? Léonie ? Ou les deux ? On l'a raconté dans l'émission.
Je me souviens qu'on l'a raconté, ça.
Mais encore faut-il écouter.
Pourtant. Alors, on a envie de dire que c'est que la fille, parce que ce sera qui serait le plus triste. Hein. C'est dur quand même. Est-ce que les deux... Moi, je dirais que... Mais pourquoi il serait...
Dites ce que vous... Voilà, votre intuition.
Bon, oui. Bah, que la fille.
Ben oui.
Vous avez une bonne intuition, choquant. Bien sûr. C'est ça qui était choquant. Oui. Elle a fait 8 mois de prison alors que lui n'a rien fait parce qu'il n'a pas été en prison parce qu'il était pair de France.
Mais, oui. Mais elle aussi avait quelqu'un dans sa vie ?
Non,
non,
mais
non. Elle a avec... incité l'autre à commettre l'adultère. Voilà. C'est elle, la tentatrice.
La tentatrice.
C'était vraiment horrible.
Évidemment. Ah oui, c'était une belle époque.
C'est naze. Hein. Ah oui. Alors, il faut départager
tout le monde,
puisque vous avez tous les trois donné une bonne réponse. Novembre 1970, vous vous souvenez de la couverture du journal satirique Charlie Hebdo, balle tragique à Colombey, un mort. Cela va entraîner la suppression du journal. Cette couverture faisait référence à la mort du général de Gaulle et à un incendie dans un dancing qui avait effectivement fait de nombreuses victimes. Mais il y a eu combien de victimes dans cet incendie de... C'était dans une boîte de nuit dans l'Isère. Le 5 à 7, ça s'appelait. C'est un programme.
Le de 5 à 7.
Et vous faites partie des rescapés, d'ailleurs, Stéphane.
De 5 à toujours, en fait.
Là, en l'occurrence.
À partir de 5 heures et pour l'éternité.
Combien de personnes sont mortes ?
Bon, allez. Moi, alors, je dis 12.
Moi, j'ai dit 28.
J'ai dit 18.
12, 18,
28.
Vous gagnez, c'est 146.
Wow, 146 ouais. Il y a 146 gus qui sont morts dans la boîte de nuit. Mais comment c'est possible? Enfin, il n'y avait pas tant de monde.
Il y avait des manquements à la sécurité.
Ah ben, ça, un peu, oui.
Les sorties de secours étaient fermées.
Un bal tragique, oui. Mmh. Oui.
Vache. Voilà. Eh bien, c'est encore une sublime victoire.
Ouais. Bah, oui.
On est loin du compte quand même.
Ouais.
Oui. Eh bien, un nouveau numéro d'Historiquement Vôtre se termine sur cette note joyeuse. La bonne nouvelle, c'est qu'on se retrouve demain. Stéphane, vous connaissez le programme ?
Oui, on réunit ceux qui sont devenus des restas en Jamaïque.
Des rastas ?
Non, pas uniquement.
Des restas,
des stars, si vous préférez. Considérés là-bas comme des dieux vivants. Bob Marley, évidemment. Mmh. Et puis, alors, mon chéri, vous savez...
Oui.
C'est Haïlé Sélassié,
bien sûr.
Le roi des rois, oui. Le négus, mais qui était aussi le roi des rastafariens.
Et un athlète plus vivant et tout aussi adulé en Jamaïque, son pays, le jeune retraité et superstar de l'athlétisme, Usain Bolt. Je vous raconte son histoire demain.
Oh, ça va aller vite alors.
Ça va aller très très vite. Ça. 9 secondes et 46 centièmes, je crois. Alors à demain Stéphane, à demain les amis.
À demain.
Retrouvez Historiquement Vôtre tous les jours de 16h à 18h sur Europe 1 et en podcast sur Europe 1.fr.